avec Mgr Jacques Perrier.
Bonjour.
C'est la deuxième fois que je m'adresse à vous dans le cadre donc de cet enseignement marial. La première fois, j'avais évoqué cinq moments clés des apparitions. Cette semaine, je voudrais évoquer alors cinq aspects assez fondamentaux de la théologie catholique, de la foi catholique à propos de la Vierge Marie. Alors, je vous le dis tout de suite quels sont les cinq titres de chapitre. Aujourd'hui, j'évoquerai l'Immaculée Conception. Ensuite, j'évoquerai la conception virginale de Jésus, du Messie. Ensuite, je prendrai la question si controversée des frères de Jésus. Quatrièmement, j'évoquerai la prière à Marie. Est-ce qu'on peut prier Marie? Et enfin, cinquièmement, évidemment, l'Assomption. Alors, l'Immaculée Conception, la fête du 8 décembre, je crois qu'elle sera fêtée cette année avec une certaine solennité. C'est un 8 décembre que, en 1933, que Bernadette a été canonisée. Et très délibérément, le pape avait voulu que cette canonisation ait lieu le jour de la solennité de l'Immaculée Conception, puisque quand même la pointe du message de Lourdes, c'est la parole de la Dame, « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors ce dogme catholique avait donc été proclamé peu de temps avant les apparitions, et on a toujours vu, Bernadette elle-même a vu dans les apparitions une confirmation de ce dogme proclamé. Alors, proclamé, on dit, le pape l'a proclamé tout seul, etc. Ça, c'est des raccourcis polémiques, parce que c'est pas vrai, ça. Il avait écrit, à un moment où il était d'ailleurs dans une mauvaise condition politique, puisqu'il avait été obligé de se réfugier à Gaète. Et de là, il avait écrit à tous les évêques du monde, puis aux supérieurs généraux des grands ordres religieux, puis aux universités catholiques, en disant, voilà, cette question de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'elle soit indemne de toute trace de péché, et ceci dès l'instant même de sa conception, est-ce qu'on peut tenir cela comme étant de foi catholique ? Il y avait déjà une célébration depuis longtemps, c'est-à-dire c'était déjà présenté comme une réalité qu'on pouvait croire, si vous voulez, mais il n'y avait pas de dogme, disons, puisqu'un dogme catholique, normalement, un catholique, j'allais dire, est sommé d'y croire. Bon. Donc, est-ce que c'est opportun de passer de la dévotion à finalement une affirmation de la foi? Les réponses ont été très, 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 très majoritairement favorable, en particulier celle de l'évêque, on ne disait pas de Tarbes et Lourdes, puisque évidemment Lourdes n'existait pas comme titre épiscopal à l'époque, il n'y avait pas eu les apparitions. Donc, Seigneur Laurent, c'était éminemment favorable. Alors, quelle est la base? Pour moi, il y a quand même une base très solide dans ce dogme. Bon, c'est la manière dont l'ange Gabriel s'adresse à la Vierge Marie le jour de l'Annonciation. Vous savez que, quand on dit « vous savez », sans doute que peut-être tout le monde ne sait pas, ou en tout cas c'est bon de réviser, voilà. Nous disons dans le « je vous salue Marie, pleine de grâce ». Bon, et bien si vous allez chercher votre Nouveau Testament, vous ouvrez l'Évangile selon saint Luc, et bien vous verrez que l'ange ne dit pas Marie. Il dit « salut, réjouis-toi », enfin c'est une autre question. Et il emploie un mot bizarre, unique, absolument unique dans toute la littérature profane ou religieuse de langue grecque, puisque l'Évangile est écrit en grec, et qui se rattache à l'idée de grâce. Donc c'est dit en un seul mot, et nous n'avons pas d'équivalent en français. Bon. Alors on dit pleine de grâce. Moi, j'aime pas beaucoup cette expression parce que, vous savez, c'est comme le verre d'eau. Il est à moitié plein ou à moitié vide. Enfin, il y a le verre, puis il y a ce qu'il y a dedans. Non. Alors moi, je dis plutôt chef-d'œuvre de la grâce. Mais c'est là non plus, c'est. Mais quand même, je crois que c'est un peu plus expressif parce que le chef-d'œuvre de la grâce, il n'y a pas dualité, si vous voulez, entre un objet et ce qu'il contiendrait. Il l'appelle comme cela. Il n'appelle pas Marie. Alors que dans la scène correspondante,
l'annonce faite à Zacharie. On sait très bien que c'est déjà dans le texte avant qu'il s'appelle Zacharie. Il n'empêche, l'ange, c'est le même ange, bon, quand il s'adresse à Zacharie, il l'appelle par son nom de Zacharie. Donc pour moi, c'est quand même une base scripturaire, comme on dit, c'est-à-dire fondée sur l'écriture, qui est quand même assez solide. C'est cette originalité de la façon dont l'ange s'adresse à elle. Le nom propre de Marie, c'est pas Marie, parce que c'est un nom assez commun, il y a beaucoup de Marie, il y a plusieurs Marie dans les récits évangéliques, mais son vrai nom, c'est Pleine de Grâce. Et donc ça nous met quand même sur le chemin de la phrase qu'elle prononce, donc finalement, le 25 mars 1858, « Je suis l'Immaculée Conception ». Voilà pour ce premier point dans notre enseignement marial aujourd'hui. « Je suis l'Immaculée Conception, Marie, chef-d'œuvre de la grâce ». La fois prochaine, on évoquera pourquoi jouit-elle, si on peut ainsi parler, d'un tel privilège. À demain.